18h15 à Tillabéri. Bienvenue fidèles auditeurs et téléspectateurs. C'est l'heure du forum du studio Kalangou. Vous nous écoutez à travers un réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans les 8 régions du Niger. Création de l'emploi pour les jeunes, pour le développement socio-économique et la cohésion sociale dans la zone des trois frontières. C'est le thème du forum sur lequel nous allons débattre aujourd'hui. La création de l'emploi productif pour les jeunes africains dont la population est en rapide augmentation, le double d'ici 2045, est certes un immense défi, mais aussi la clé de la prospérité future du continent. C'est l'une des recommandations principales du rapport annuel sur les perspectives économiques en Afrique 2012, publié le 28 mai 2012 à Arusha, dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Au Niger, le taux de croissance démographique est l'un des plus rapides au monde, soit 3,9% par an. La structure de population est la plus jeune avec un âge médian de 15 ans. Quels sont les avantages de la cohésion sociale? Comment favoriser la cohésion sociale avec l'emploi des jeunes? Comment accompagner les jeunes à la quête de l'emploi? Quelles sont les actions à mener en direction de la jeunesse et leur emploi? Et quels sont les facteurs qui favorisent l'emploi des jeunes pour une cohésion sociale durable? C'est à ces questions et à bien d'autres que notre émission tentera d'apporter des réponses. Pour ce faire, nous avons invité Omar Hamadou. Il est le représentant du président du conseil régional de la région de Tillabéri. Moumouni Hassan, secrétaire général de la mairie de Touroudi. Abdoul Moumouni Abbas, il est consultant au niveau du RAI projet 3 frontières en prévention extrémiste violent. Et moi, Moussa Hassan, pour diriger les échanges. Au Niger, environ 500 000 jeunes entrent dans le marché du travail chaque année selon l'étude nationale d'évaluation d'indicateurs socio-économiques et démographiques 2015. Bien que la cohésion soit un processus à multiples facettes, la relation de travail peut être l'une d'entre elles. Quels sont les avantages de la cohésion sociale? Le lieu de travail est d'abord un lieu d'échange. Comment le travail peut-il développer un lien social? SG, nous allons d'abord commencer par vous. Et quels sont les avantages de la cohésion sociale pour la lutte contre cette insécurité?
Effectivement, quand on prend la cohésion sociale, c'est un avantage pour prévenir et même pour gérer facilement, c'est-à-dire les questions d'insécurité. Et les avantages que ça comporte, nous avons vu que toutes les localités qui ont fait objet de résilience face à cette insécurité que nous connaissons depuis quelques années et sont des localités dans lesquelles il y a une cohésion sociale qui est marquée, avec des leaders ou bien des jeunes leaders qui font, c'est-à-dire, l'unanimité et qui développent la cohésion dans la communauté. Donc la cohésion sociale, c'est la base, c'est-à-dire pour la paix. Ça contribue à la paix et ça permet, c'est-à-dire, de quand il y a un conflit, parce que le conflit entre dans le cadre de la vie normale, c'est-à-dire d'une société. Quand il y a un conflit, s'il y a une cohésion qui existait, ça permet de régler le conflit pacifiquement.
Avant que ça ne dégénère.
Avant que, effectivement, ça ne dégénère. Donc, et quand il y a cohésion, il est plus facile, c'est-à-dire de faire le dialogue, de faire, c'est-à-dire, des concertations, des consultations, et puis d'accoucher, c'est-à-dire, des idées de développement ou bien des initiatives allant dans le sens de la prévention ou bien de sensibilisation des jeunes ou bien de quelques acteurs pour ne pas rejoindre, c'est-à-dire, ces mouvements d'insécurité.
Je vais revenir à vous, monsieur le conseiller, monsieur Abbas. Et comme l'a dit le SG, la cohésion est un tapis pour la quiétude et la préservation de la sécurité. Et on sait que le lieu de travail, c'est d'abord un lieu d'échange. Donc, comment le travail peut-il développer les liens sociaux entre les gens?
Merci beaucoup. Bon, sans être sociologue, j'estime que le milieu professionnel, autrement dit le lieu de travail, est un cadre aussi de socialisation de l'individu. Ce n'est pas primaire parce que ce n'est pas la famille, mais normalement, le lieu de travail constitue, tout comme la famille et l'école, un endroit où on peut interagir, voilà, où on peut s'entraider. Et naturellement un lieu de socialisation secondaire de l'individu. Donc du coup je pense que oui, en milieu professionnel, oui, la cohésion sociale peut être renforcée, et le lieu de travail est un cadre propice à l'émergence de la cohésion sociale. Je pense que si aujourd'hui malheureusement on constate certains écarts, c'est quelque part parce que tout simplement en fait il y a un déphasage entre ce qui doit être le lieu professionnel, autrement dit le lieu de travail, et ce qu'il est actuellement. C'est ça un peu le problème. Tout comme si les gens se sont radicalisés, c'est peut-être quelque part c'est parce que la famille, qui est un cadre d'ancrage de socialisation primaire de l'individu, n'a pas joué son rôle. La famille a démissionné. L'école, qui devrait continuer le rôle de la famille, ne l'a pas fait non plus. Et donc, du coup, le milieu professionnel, qui est le troisième niveau d'ancrage, disons, des valeurs traditionnelles ou des socialisations de l'individu, souvent est absent. Et donc, du coup, on constate certains écarts. Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est un cadre... pour me répéter, d'interaction et donc d'émergence de la cohésion sociale.
Un cadre propice. Et je reviens avec M. Omar. Certains jeunes Nigériens ont quitté le pays à la recherche de meilleures opportunités économiques. Bien que les statistiques soient difficiles à obtenir, la politique nationale de migration du pays a clairement établi un lien entre l'emploi et la migration. Selon vous, vous qui défendez les jeunes, la cause de la jeunesse, que faudra-t-il faire pour retenir ces jeunes à la maison?
Et à mon sens, ce qu'il faudra faire pour maintenir ces jeunes, il faut former ces jeunes. Et les jeunes qui ont déjà une formation, il faut en tout cas les accompagner dans la création de leur emploi. Il faut aussi en tout cas les accompagner dans d'autres secteurs, parce qu'il y a des jeunes qui ont suivi des formations, mais malheureusement ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi sur le marché. Il faut préparer ces jeunes à une reconversion professionnelle. Et les jeunes qui ont aussi été désœuvrés, parce que Tillabéri est une zone qui est dans l'état d'urgence, donc du coup les activités économiques des jeunes se sont vues stoppées, en tout cas par faute de certaines mesures de l'état d'urgence qui nous ont été imposés. Donc à ces jeunes, il faut trouver en tout cas des conditions, en tout cas il faut les former, il faut les orienter, il faut chercher d'autres partenaires en tout cas qui va aider encore l'état à accompagner ces jeunes jusqu'à trouver de l'emploi. Et ici au niveau de Tillabéri, nous avons des centres de formation professionnelle qui forment les jeunes au métier, et que ce soit les jeunes qui quittent du niveau primaire, en tout cas parfois de moyens qu'on oriente dans ces centres. Ces jeunes-là, à la fin de leur formation, certains n'arrivent pas à avoir des outils, en tout cas pour exercer leur métier. Il faut les accompagner avec des outils. Et bien entendu, il faut les suivre aussi. Il ne suffit pas d'accompagner, il faut suivre pour voir là où il y a des insuffisances. À mon sens, voilà en tout cas un certain nombre d'éléments qu'il faut régler.
Et récemment, à travers le HACP, la Haute Autorité de la Conciliation de la Paix, l'État s'est engagé à offrir un certain nombre d'emplois aux jeunes qui sont notamment dans les zones d'insécurité à travers leur recrutement au niveau des FDS, à travers des AGR et à la création des petites et moyennes entreprises. Est-ce que ce projet est en train d'être mis en œuvre ici à Tillabéri?
Comme vous, en tout cas, j'ai constaté qu'il y a la HACP qui a fait circuler des carnets, en tout cas pour donner des subventions à des jeunes afin de s'installer. Et pas que seulement le HACP, il y a d'autres partenaires qui le font. Mais malheureusement, ce que nous déplorons à ce niveau, les carnets ne sont pas flexibles. En tout cas, ça ne permet pas à ces jeunes de mieux faire remplir les carnets. Mais aussi, il y a au niveau des critères d'éligibilité qu'on impose, il y a une certaine garantie qu'on demande aux jeunes. Par exemple, je m'explique, s'il y a 100% à donner, on demande aux jeunes en tout cas de donner 40%. Mais le jeune qui a déjà les 40%, est-ce qu'il aura besoin en tout cas de cet argent? Moi, je ne pense pas. Donc, il faut rendre flexibles ces subventions qui jusque-là sont difficiles, parce que le remplissage, ça cause des problèmes. D'abord, on n'organise même pas des assemblées générales pour expliquer le problème. Comment est-ce qu'on doit remplir ce carnaval? Donc, du coup, c'est toute une difficulté qu'il y a autour de ce remplissage de carnaval avant de bénéficier de la subvention. Parce qu'il y a un certain nombre de documents à fournir, tels que l'acte de naissance, nationalité, tout ça là. Et les jeunes se décarcassent pour avoir ces papiers. Malheureusement, jusque-là, nous attendons les suites. Je ne sais pas à quel niveau ça se trouve. J'aurais bien aimé avoir en tout cas un spécialiste à ce niveau pour m'éclairer. Merci bien.
Il y a aussi d'autres partenaires, je pense, qui soit par commune, soit au niveau central de l'État, qui aident à travers des agères, à travers des petits projets du jardinage. Si vous avez de ces partenaires-là, quels sont les avantages que tirent d'abord les jeunes à travers l'appui là que ces partenaires leur apportent et quel serait l'avantage pour les jeunes?
Ok. Voilà, merci. Donc, c'est comme vous le dites, il y en a beaucoup de partenaires, c'est-à-dire qui sont mobilisés, c'est-à-dire pour accompagner les jeunes, pour mettre en œuvre, c'est-à-dire la politique de l'emploi élaborée, c'est-à-dire par l'État. Et il y a même une stratégie en matière, c'est-à-dire de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et il y a beaucoup de partenaires qui s'alignent pour accompagner l'État à mettre en œuvre, c'est-à-dire ces stratégies. Et effectivement, comme l'a évoqué le représentant des jeunes, et on constate que d'abord, si on catégorise, c'est-à-dire nos jeunes, nous avons les jeunes ruraux qui constituent la grande majorité pour qui les subventions sur la base, c'est-à-dire des micro-projets élaborés, et les éliminent, c'est-à-dire automatiquement. Et de l'autre côté, il y a beaucoup d'opportunités quand vous prenez au niveau de la zone 3 frontières, c'est-à-dire les communes frontalières avec les deux pays frontaliers, le Mali et le Burkina, notamment surtout dans le domaine de l'agriculture avec le fleuve Niger qui nous arrose et puis les différents affluents du fleuve Niger aussi qui traversent ces communes. Mais on constate qu'il n'y a pas une culture, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat chez nous. Contrairement, c'est-à-dire dans beaucoup de pays anglophones où les jeunes, c'est-à-dire à un certain âge, prennent des initiatives et que l'État accompagne ces initiatives-là pour la création de l'emploi. Et je pense bien que il y a beaucoup d'insuffisances et c'est lié d'ailleurs d'abord à notre curricula scolaire même. Là où notre enseignement est vraiment, c'est un enseignement d'assimilation, ça n'amène pas vraiment aux jeunes à se questionner ou bien à poser des problèmes pour pouvoir vraiment se débrouiller. Chacun attend à ce qu'il soit employé par l'État et c'est ce qui est vraiment difficile. Et donc, pour vraiment solutionner ce problème-là, moi je pense bien le secteur le plus pourvoyeur d'emploi aujourd'hui au Niger, c'est l'agriculture. Et l'État doit créer les conditions pour qu'il y ait, c'est-à-dire des actions de mobilisation des eaux, des actions, c'est-à-dire de protection des sites et des actions de formation, comme il l'a dit, et sur au niveau de la formation professionnelle et sur les techniques aussi de production agricole. Et quand je dis agriculture, je parle avec grand A, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Je pense bien qu'on peut, c'est-à-dire absorber, c'est-à-dire toute jeunesse là, comme vous l'avez dit dans votre présentation, que nous avons une population qui est très jeune. Cela constitue un atout si on arrive vraiment à transformer cette jeunesse là en une jeunesse dynamique.
Un levier économique.
Voilà, un levier économique apte et compétitif, c'est-à-dire pour que vraiment produire. Voilà.
Et pour revenir vers vous, Abassa. Nous savons que la jeunesse nigérienne est laborieuse. Et compte tenu de la hausse de cette jeunesse, une croissance élevée ne suffit pas à elle seule pour créer l'emploi productif. Le chômage des jeunes résulte de quoi dans le pays? Un pays comme le Niger a faibles ressources. Et quelles doivent être les actions à mener pour aider cette jeunesse à acquérir de nouvelles compétences pour ne pas sombrer dans l'extrémisme?
Si vous me le permettez, la question est extrêmement importante, comme l'a commencé à introduire le secrétaire général, la question de l'agriculture, et qui de mon point de vue, en fait, jusque-là, on est en train de manquer un véritable diagnostic par rapport aux véritables facteurs de la radicalisation et l'extrémisme violent. Tout le monde sait que, comme il l'a dit, la mamelle de notre économie, c'est principalement l'agriculture avec grand A, y compris donc l'élevage. Et on sait que depuis un temps, le pastoralisme a pris un coup avec la question des changements climatiques. Et même la question de la migration, souvent, c'est parce que les changements climatiques a eu raison surtout que les gens migrent. Pas parce que l'on voulait, c'est parce que probablement ils n'ont plus de terres de culture du fait des changements climatiques ou de la pression démographique. Ou parce que on n'a plus d'animaux. du fait du changement climatique, parce qu'il n'y a plus d'aliments de bétail, les animaux meurent, et donc les gens sont plus offrants. Je pense qu'il y a des questions comme ça qu'il faut, c'est des questions comme ça qu'il faut approfondir pour véritablement trouver la solution. Et donc, pour revenir sur le propre problème de la jeunesse, je pense qu'il appartient à la jeunesse, comme je l'ai dit, de savoir qu'elle est un acteur de sécurité, de paix, de développement, définir ses propres lacunes, tout le monde le fait. Et puis, c'est comme cela qu'elle peut inviter à être soutenue pour qu'évidemment, elle puisse véritablement être un acteur au service du développement.
Et concrètement, face à cette situation, quels sont les impacts que peut avoir cette situation de sous-emploi de cette jeunesse? Oui. Au niveau des communautés.
Oui, et c'est vrai, immédiatement, il y a le risque de basculement à la radicalisation et l'extrémisme violent. Et c'est vrai que des études réalisées en 2018 par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité, et c'est vrai, c'est disparate les facteurs de la radicalisation, mais au fond, tout le monde sait, et ça, et à l'apparence aussi, et que quand on est pauvre, on est au plus offrant. Et donc, quand on a une jeunesse désœuvrée, qui manque de tout, pratiquement de tout, et il faut se dire oui, on a en face de soi une jeunesse qui est capable et potentiellement de s'enrôler, parce qu'elle n'a pas de perspective, elle n'a pas d'initiative, elle n'a rien. Et donc je pense que la première conséquence ou le premier risque potentiel auquel nous sommes exposés en tant que communauté, c'est de voir notre jeunesse s'enrôler dans la radicalisation du fait de son état de pauvreté généralisée, de paupérisation généralisée.
Pour revenir à vous, Omar, en tant que jeune de la structure régionale de la jeunesse, quel impact le chômage des jeunes à long terme peut avoir sur eux-mêmes et sur la cohésion de la société?
En tout cas, le chômage à long terme peut avoir vraiment un impact sur la jeunesse, parce que le jeune qui n'arrive pas à travailler, qui n'a pas d'occupation, en tout cas peut basculer, comme l'a dit monsieur le consultant. Donc, à mon sens, la jeunesse doit s'organiser. Tout à l'heure, les prédécesseurs ont demandé que la jeunesse doit poser en tout cas son propre diagnostic. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on a une jeunesse en tout cas qui a reçu une formation, mais cette jeunesse n'arrive pas à prendre conscience en tout cas du danger. Il y a une étude en tout cas qui a révélé ça. La jeunesse a un problème de choix de métier. Et ce problème est spécifique à deux régions. Selon l'étude diligentée par la CAPEJ, qui est une cellule d'analyse et d'évaluation des politique publique, en tout cas qui a mené une étude sur les besoins et les aspirations des jeunes. Et cette étude révèle qu'au niveau de la région de Tillabéri et d'Osso, on a un problème de choix de métier. Donc je suis Maïga, je suis Zarmokoy, on ne peut pas faire. Sinon le travail là, c'est parce qu'on choisit. Ils l'ont dit, tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, le secteur qui arrive à absorber, monsieur le secrétaire général a déjà notifié ça, je ne vais pas revenir au risque de me répéter. En tout cas, la jeunesse doit s'y mettre, il y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, quand je regarde au niveau de la région de Tillabéri, qui est une région agricole, nous avons le fleuve, et donc on peut faire vraiment des cultures de contre-saison. Et là aussi, il faudrait que l'État arrive à accompagner les jeunes, parce que et quand je regarde même l'environnement fiscal, ne permet pas en tout cas à la jeunesse d'entreprendre. Aujourd'hui, les coûts sont exorbitants quand tu commences à exercer une activité. Du coup, le gars de l'impôt descend sur toi, on te bombarde avec de l'argent. Donc la jeunesse est vraiment dans une situation qui n'est pas du tout favorable. Et c'est vrai que la jeunesse doit s'organiser. Le problème de la jeunesse, il faut qu'on s'organise en association, parce qu'en restant dans son coin, on ne peut pas avoir des opportunités. Quand les informations viennent, c'est à travers les structures de jeunesse, on peut les avoir. Donc pour ça, j'invite vraiment la jeunesse à regagner les associations, à s'organiser. Et la jeunesse doit être entreprenante aussi. Tout le monde ne peut pas travailler pour l'État, ça c'est clair. Tout le monde ne peut pas travailler dans un bureau, ça c'est clair. L'activité, elle est là. Il faut déjà trouver quelque chose à faire. C'est là où j'invite la jeunesse. Sinon, à long terme, vraiment, l'impact serait négatif. La jeunesse peut basculer. Vous imaginez, un jeune qui n'a pas d'occupation, qui se réveille le matin, qui n'a rien à faire, vite fait, il est tenté de regagner l'autre groupe. Donc, à mon sens, vraiment, la jeunesse doit s'organiser. L'État doit créer les conditions. Les partenaires doivent accompagner. En tout cas, tout le monde doit s'y mettre.
Et vous l'avez évoqué, il y a un déséquilibre entre le marché du travail et l'inadéquation des compétences.
Des compétences, oui.
Mais il faut, tout mal pour vraiment le solutionner, il faut avoir les causes. Quelles sont les causes de ce déséquilibre?
Bon, les causes de ce déséquilibre, moi je pense que l'État ne crée pas assez et en tout cas d'autres secteurs, on dirait que c'est la fonction publique seulement qui est là. Donc le déséquilibre est du fait que on n'a pas suffisamment en tout cas d'entreprises pour absorber. Et ici au niveau de la région de Telaberi, c'est une zone agricole, et on produit suffisamment en tout cas de produits maraîchers, mais on n'a pas la transformation. Imaginez si nous avons des usines de transformation, ça pourrait aussi absorber, en tout cas ça pourrait pallier à ce problème de chômage des jeunes. Donc le déséquilibre est dû du fait qu'il n'y a pas assez d'opportunités, et surtout au niveau de Tillabéri. Déjà avec le contexte de l'insécurité, il y a beaucoup d'activités qu'on n'arrive pas à faire. Avant, il y avait les activités des mototaximans, en tout cas on avait plus de 500 jeunes au niveau de la région de Tillabéri qui se débrouillaient à travers cette activité. Du coup, ces activités se sont arrêtées, et il ne faut pas voir seulement ces jeunes en tout cas qui exercent cette activité de mototaxi. Il y a les vendeurs de pièces détachées, il y a les vulgarisateurs. Imaginez tout ce beau monde qui se retrouve un jour qui n'a rien à faire. Alors vous conviendrez avec moi, longtemps si on n'arrive pas à régler ce problème, l'impact ne serait que négatif.
Et je reviens à vous, est-ce que les paysans sociaux aussi n'ont pas leur impact sur les équilibres?
Oui, justement. Et il l'a évoqué tout à l'heure, il parlait, c'est-à-dire de la culture, et notre culture qui parfois, c'est-à-dire nous bloque. Il y a certaines communautés qui se disent de telle activité, ouais, je suis de telle ethnie, ou bien je suis de telle noblesse, je ne peux pas la faire. Bon, ça doit être dépassé à mon sens. Ouais. Et c'est comme il l'a dit, et l'un des freins également dans la région de Tillabéri, les quelques rares jeunes, c'est-à-dire qui entreprenaient et qui faisaient des activités et qui ont trouvé de l'emploi, les mesures liées aux questions de l'état d'urgence et les ont encore désœuvrées. C'est-à-dire, il a parlé, c'est-à-dire de tous ceux qui sont sur la filière transport à deux roues, et également tous ceux-là qui faisaient le commerce sur la base, c'est-à-dire de moyens de transport à deux roues, et ceux qui vendaient aussi également le carburant et autres, tous ceux-là se sont retrouvés désœuvrés.
Toute la chaîne.
Et effectivement, il y a certains qui se sont adaptés par la suite, qui se sont convertis dans d'autres activités. Et c'est comme il l'a dit, la migration avant, par le passé, c'était une culture. Aller à la côte, c'était culturel. Mais ces derniers temps, c'est-à-dire les jeunes sont contraints par manque d'emploi d'aller, c'est-à-dire en exode, d'aller en migration, parfois, c'est-à-dire vers le Maghreb, là où ils sont exposés à tous les dangers qui peuvent exister. Donc, sincèrement, notre jeunesse, c'est vraiment une chance. Mais également, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire des actions pour transformer cette jeunesse-là à vraiment à une opportunité. Sinon, ça risque d'être une bombe.
Monsieur Abbas, y a-t-il des facteurs ou bien des secteurs à promouvoir? Parce que, comme il l'a dit à les présentateurs sociaux, le fils de l'éleveur, lui, il ne pense qu'à l'élevage, qu'en tête de bétail qu'il peut avoir. Le cultivateur ne pense qu'à chien, le nombre de bottes qu'il peut avoir par an. Il y a, en dehors de l'insécurité, il y a aussi la nature qui est contre nous. Il y a le changement climatique. Tout ça là ne peut pas être pérenne. Ne faut-il pas revoir cette vision des choses?
Ouais, je pense qu'il faut déconstruire les pesanteurs là, les stéréotypes figés qui sont fondés sur la noblesse des métiers. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est grâce aux forgerons, nous voyageons à travers le monde. En une journée, vous pouvez faire 10 000 km. C'est extrêmement important. Et c'est un forgeron qui l'a fait. Pourtant, bizarrement, au Niger, quand on est dans cette classe-là, souvent, c'est très compliqué. Il y a une catégorie de... Et ça, là, il faut qu'on déconstruise ça. Je pense que c'est le premier travail qui nous gêne, que les jeunes, vous devrez faire. Et ça, c'est à l'endroit aussi de la communauté qui reste parfois trop figée sur ces questions-là. Et sûrement, tous les secteurs, sincèrement, sont vierges. Je veux dire, en termes terre à terre, pratiquement, il n'y a rien. Omar l'a dit, ici à Tillabéri, il n'y a même pas des usines de transformation des produits. Moi, je faisais Bani Bongo avec l'état d'urgence. Les femmes qui font du fromage, mais... ils le font, mais il n'y a même pas de marché pour les couler, en fait. Souvent, ça se limite à la consommation. À un moment, voilà, ils ne savent plus quoi faire avec les femmes qui produisent des pommes de terre, des choux à Bani Bangou. Le marché le plus proche est à 150 km de Bani Bangou, c'est Baleara. C'est le plus proche et le plus sécurisé. Et là, c'est compliqué pour y amener des produits maraîchers qui
périssables.
Donc, vous comprenez, c'est très compliqué. Donc, les secteurs sont vierges. Il faut renforcer et il faut accompagner les gens, peut-être à se spécialiser, à savoir comment un peu moderniser sa production, comment conserver les produits périssables, tout ça là. Je pense que c'est comme cela qu'il faut faire, accompagner maintenant, c'est pas d'une sensibilisation d'air intéressante, c'est la déconstruction des pesanteurs sociales, parce qu'il faut que les gens comprennent, c'est la jeune qui roi en fait, c'est ça la question quoi. On peut être, oui, noble, mais quand on n'a pas d'argent aussi, c'est un problème. Souvent, il faut savoir aussi s'adapter. Il faut être résilient. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que nos chefs doivent voir nos communautés principalement qui incarnent certaines traditions aussi, jusque-là, certaines cultures, de bouger un peu, d'être dans la dynamique de la mondialisation et comprendre qu'il faut libéraliser des choses qui soient libéralisables, quoi. Donc voilà.
Et pour revenir à vous, M. Omar, l'adoption en 2017 de la recommandation 205 sur l'emploi et le travail décent pour la paix et la résilience en vue de créer des emplois et du travail décent contribue à promouvoir la paix et la cohésion sociale, prévenir les crises, permettre le développement et renforcement et renforcer la résilience.
Et dans le domaine de l'entrepreneuriat,
oui, dans l'emploi.
Et je ne vois pas assez d'avancées, mais de plus ou moins avec le concours de certaines ONG, en tout cas, qui arrivent à organiser les femmes. Au niveau de Tillabéri, ces derniers temps, les femmes sont tellement organisées, la jeunesse est organisée. Donc, les partenaires sont là quand même à accompagner cette jeunesse. Il y a des efforts, en tout cas, qu'on observe sur le terrain. De plus en plus, on a des jeunes, en tout cas, qui sont dans la restauration, des jeunes, en tout cas, qui installent leur business, qui font des photocopies, des saisies. De plus en plus, en tout cas, la jeunesse a pris conscience. Et puis les jeunes ont compris aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui a étudié, qui cherche à être pour un laps de temps vigilant, pour avoir quand même un revenu et démarrer son entreprise. De plus en plus, du moins, s'il y a des avancées, en tout cas, ils sont là, les consultants sont là à nous former, et à nous orienter avec le concours aussi des professionnels. En tout cas, il y a des avancées.
Et vous l'avez évoqué, les jeunes femmes en particulier continuent de se heurter à de multiples obstacles à l'accès du marché de l'emploi, y compris les restrictions culturelles et sociales sur les types d'emplois jugés appropriés à ces femmes-là. Que faire alors dans ce cas pour amener justement la jeune fille dans le marché de l'emploi?
Et ce qu'il faut faire, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser les jeunes filles, en tout cas, à s'organiser, en tout cas, à être entrepreneurs aussi, à créer des activités. Et quand vous regardez le marché de Tillabéri, en tout cas, la majorité des commerçants, vous allez trouver que c'est des femmes qui sont dans le commerce. En tout cas, au niveau de la femme aussi, il y a des efforts. On continue de sensibiliser les femmes. Quand les projets viennent aussi, en tout cas, ils donnent les avantages aux femmes. Même devant l'offre, quand vous venez, vous allez constater que c'est la candidature féminine qui est surtout encouragée. Donc vraiment, il y a des efforts qui sont en train de faire, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté des partenaires, que ce soit du côté de la société civile qui arrive à sensibiliser, en tout cas, la jeune fille à aller vers l'entrepreneuriat. Il y a des efforts.
Pour revenir vers vous, SG, de plus, pour des milliers d'enfants au Niger, l'enfance est écourtée par le mariage. Peut-on vraiment faire un lien entre le mariage précoce, surtout des filles, l'emploi des jeunes et le développement social?
Oui. Justement, ça également, ça constitue un problème pour notre société, le mariage précoce, c'est-à-dire des jeunes filles, et qui les expose parfois, c'est-à-dire à des maladies ou bien parfois à des choses comme des fistules et autres. Et du coup, c'est-à-dire elles sont marginalisées, c'est-à-dire dans la société. Et effectivement, nous pensons, ou bien beaucoup de gens pensent que pour endiguer ce problème-là, il faut passer surtout par l'éducation et par les sensibilisations. On pense bien que si les jeunes filles sont maintenues à l'école, ça permettrait, c'est-à-dire de prévenir, c'est-à-dire ces mariages précoces. et ça permettrait également, c'est-à-dire d'avoir des femmes qui auront des enfants avec un âge plus mature pour prendre en charge ces enfants-là. Parce que généralement, c'est les femmes qui font, c'est-à-dire la première socialisation, c'est-à-dire de l'individu. Et si cela est raté, et ça a un impact, c'est-à-dire sur toute la communauté.
L'UNICEF estime que 3 jeunes filles sur 4 ont été mariées avant l'âge de 18 ans et 1 sur 4 avant l'âge de 15 ans. Et ces filles finissent en généralement déscolarisées si elles sont toutefois inscrites. Selon l'enquête réalisée en 2015, la moitié des jeunes sont sous-employés dans le pays. Donc, en tant que consultant, que conseillez-vous pour améliorer des perspectives d'emploi pour ces jeunes au Niger?
Bon, moi, je pense qu'il faut renforcer la qualité de l'éducation et doubler surtout de la sensibilisation aussi des parents sur le maintien des jeunes filles à l'école. Sincèrement, la seule alternative que je vois ici, c'est le maintien, ou les alternatives que je vois, c'est le maintien de la fille à l'école et puis l'investissement dans la qualité de l'éducation. C'est de cette seule manière-là qu'on peut agir durablement sur la fille et non seulement briser les tabous, certains stéréotypes et puis lui permettre d'intégrer le marché de l'emploi. Comme vous le dites, le rapport de l'UNICEF, c'est ahurissant en termes de ce que cela réserve aux jeunes filles. Mais je pense que quand elles sont compétentes, quand elles sont garnies de diplômes et d'expérience, rien ne peut les empêcher d'intégrer le marché.
Omar, c'est vrai, c'est les filles qui sont les premières victimes du mariage précoce. Mais aussi, il y a la responsabilité de l'homme. Un homme jeune, il a été marié très tôt, sans développer la fibre responsable, de la responsabilité plutôt. S'il perd son travail souvent, il est tenté de faire autre chose qui n'est pas décent. Et on a vu des cas, par exemple à Balayar, on a vu un jeune qui faisait le taxi moto. Oui. Lorsqu'on l'a arrêté, il est venu sur le goudron, il vend les galettes. Et il a développé un marché. Tout de suite, il est devenu le point de rencontre de tous les jeunes là-bas. Il vient faire la fara là-bas, chacun vient manger là-bas. Et il arrive à joindre les deux bouts. Oui. Est-ce que les jeunes ne peuvent pas s'inspirer de ces choses pour savoir que être marié, c'est aussi une responsabilité?
Et le mariage, c'est une responsabilité. En tout cas, ça amène le jeune aussi à prendre conscience, à être responsable, parce que désormais, il a une famille à prendre en charge, il a des enfants, en tout cas, à prendre en charge. Donc, pour ça, le jeune, en tout cas, doit, en tout cas, surpasser de certains préjugés, de certaines arrière-pensées. En tout cas, le jeune doit être créatif, le jeune doit être responsable, en essayant quand même aussi à trouver quelque chose à faire, parce que les opportunités, ils sont là, on peut faire beaucoup de choses. C'est vrai, même si le contexte est un peu difficile, mais le jeune, avec un peu de créativité, peut trouver quelque chose à faire. Aujourd'hui, nous avons les activités des moto-taxis qui reprennent, mais cette fois-ci, c'est les motos à deux d'état. Il y a beaucoup de jeunes qui convergent, en tout cas, vers ce secteur.
Les tricycles,
c'est les motos à deux d'état. Les tricycles aussi sont carrément interdits de rouler. Et il y a les à deux d'état qui sont différents des tricycles.
Ah, okay.
Oui. Les motos qui ont les couleurs jaunes. Oui. Donc, c'est avec ces motos-là que les jeunes arrivent à faire des activités. Et Dieu merci, il y a certains partenaires qui accompagnent ces jeunes. Il y a un partenaire qui a amené jusqu'à 50, voire 60 de ce genre de moto qu'il a donné à des jeunes, en tout cas sous forme de subvention. Et Dieu merci, ça a généré, ça a suscité en tout cas cette envie au niveau de la jeunesse. Donc moi, je me dis que si le jeune a, en tout cas, se marie tôt, c'est pas aussi un handicap, c'est une manière de responsabiliser le jeune.
Pour revenir à vous, Abbas, on a tantôt évoqué le phénomène de la migration qui était un phénomène social dans l'État. Mais est-ce que cette migration n'est pas quelque part une solution?
La migration, c'est naturel, comme vous l'avez dit, mais dans ce contexte précis, c'est vrai, il faut voir ça du point de vue manichéen, en termes du bon et du mal, quoi. Oui, c'est une solution pour ces jeunes qui manquent de l'emploi parce qu'ils veulent se réaliser. C'est une solution et ça crée en même temps une dépression, ça crée une dépopulation de la population entre griffes déjà diplômée au pays. Mais le deuxième aspect, ce qui est important, c'est comme l'a souligné le SG, c'est que c'est une migration obligé en fait. Les gens sont, contre mauvaise fortune, bancaires, obligés de partir. Et là, c'est le pire des choix. En fait, bon, c'est le moins grave des choix. Parce que le pire, c'est de s'enrôler dans la radicalisation et l'extrémisme violent. Et donc, on part quelque part parce que on a peur soit d'être enrôlé, on a peur d'être vu comme un incapable du point de vue social, parce qu'il y a des stéréotypes aussi quelque part vers certaines zones Sahel, dans l'Ader par exemple. Celui qui n'est pas capable de se déplacer, c'est un incapable socialement parlant. Donc du coup il y a des contraintes, souvent en fait on est obligé de partir quoi.
Est-ce que la migration, comme l'a dit, c'est quelque part une solution. Mais est-ce ce n'est pas aussi une fuite de bravade?
Oui, justement, c'est pas une solution, mais c'est une forme d'adaptation. Mais c'est comme vous le dites, parce que quand on dit c'est une solution, ça veut dire que ça résout le problème. Mais ça ne résout pas le problème parce que, comme vous l'avez dit, ça vide notre pays, c'est-à-dire de sa population active. Si c'est les intellectuels, c'est-à-dire c'est les intellectuels que nous perdons. Et si c'est les jeunes, si c'est les jeunes ruraux, c'est les jeunes ruraux là qui labourent la terre, qui produisent, c'est-à-dire les productions agricoles, qui partent, c'est-à-dire en exode. Donc c'est une forme d'adaptation et qui est la mieux que, c'est-à-dire que de s'enrôler ou bien c'est-à-dire de suivre, c'est-à-dire l'autre choix.
Le banditisme.
Voilà, le banditisme. Mais maintenant, ce qui m'a intéressé, c'est surtout l'innovation là que vous avez évoquée par rapport au monsieur ou bien au jeune homme, c'est-à-dire de Belleyar. Ça, c'est des innovations intéressantes qu'il faut répertorier et qu'il faut aussi accompagner pour qu'il y ait, et les accompagner et puis le diffuser également pour que les autres jeunes aussi, ça les suscite pour qu'il y ait des taches d'huile. Parce que le problème, c'est que tout le monde, on a l'impression qu'il n'y a pas de créativité. C'est-à-dire que les gens ne réfléchissent pas à comment faire. Parce que comme il l'a dit, tous les secteurs sont presque vierges. Hein. Tous les secteurs. Quand vous regardez par exemple dans, comment on appelle ça, les femmes là, pour les tresses et autres là, vous verrez que c'est les côtières là qui viennent, c'est-à-dire pour faire ça. Et la couture également, vous verrez que c'est les Sénégalais, c'est les autres, c'est-à-dire qui font ça. Et même, c'est-à-dire la maçonnerie. Vous voyez, c'est les Sénégalais, c'est les Béninois qui... Cela suppose qu'il y a l'emploi. Mais les jeunes, c'est-à-dire, ne se sont pas professionnalisés, c'est-à-dire, dans ce métier-là, pour vraiment apporter le service, c'est-à-dire, aux communautés.
Quelles sont concrètement les mesures immédiates et les solutions pour contenir ces jeunes-là, les garder à la maison et leur offrir les voies et moyens de s'en sortir?
Oui. Et c'est ça, c'est d'investir, c'est-à-dire dans les secteurs pourvoyeurs d'emploi. Et d'aider les jeunes également en faisant des études pour voir, c'est-à-dire les métiers porteurs, pour pouvoir les accompagner et à aller dans ce métier-là.
Nous allons faire un tour de table pour finir. Monsieur Omar, en tant que jeune, quel est votre cri de cœur à l'endroit des jeunes d'abord, des gouvernants et des partenaires?
Et mon coup de cœur, je commencerai surtout à l'endroit de la jeunesse. Il faut que la jeunesse s'organise. Il faut que la jeunesse s'organise à travers les associations. Il faut que la jeunesse, en tout cas, arrête de choisir les métiers. J'ai master, j'ai une licence, c'est clair, tout le monde ne peut pas travailler pour l'État. Il faut créer. Moi, j'ai mal quand je vois un ingénieur agronome, en tout cas, veut travailler coûte que coûte dans un bureau, alors que nous l'attendons sur le terrain pour nous orienter, pour nous aider, pour nous former. Donc vraiment, il faudrait que la jeunesse prenne conscience. À l'endroit de l'État, vraiment, c'est de créer les conditions favorables pour permettre à ces jeunes d'exercer, en tout cas d'initier des formations sur l'entrepreneuriat des jeunes, de subventionner les jeunes et de voir aussi comment alléger un peu l'environnement fiscal pour permettre à ces jeunes d'exercer leur métier sans avoir de difficultés.
Quel est votre cri de cœur pour justement préserver ces jeunes-là, de suivre cette voie?
Bon, merci beaucoup. Je pense que Omar il a abordé pratiquement tous les points. Et premièrement, d'abord, les jeunes eux-mêmes, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont des jeunes. Il faut qu'ils s'éduquent. à la citoyenneté responsable. En fait, il faut qu'ils se sentent utiles au développement de leur communauté. En fait, il faut qu'ils parlent les actes consentent qui effectivement ils appartiennent à la communauté. C'est des actions banales qu'ils peuvent poser, sa liberté, des petites actions qu'ils posent qui font d'eux des membres de la communauté. Ça, c'est extrêmement important. Et ça va participer aussi au renforcement de la cohésion sociale qui a un effet transversal sur le renforcement de la résilience des communautés face à la radicalisation et l'extrémisme violent. L'autre aspect, c'est que je vois déjà l'État est dans la dynamique de création d'un fonds national de souveraineté, je ne sais pas, pour les jeunes, et si c'est disponible, qui peut être garni et à hauteur de plusieurs milliards, il appartient aux jeunes et à leur structure aussi de définir les conditions avec l'État qui permettent d'accéder à ces fonds-là. Nous avons à travers le projet Trois Frontières participé au renforcement des capacités des jeunes sur le leadership en temps de crise, sur la citoyenneté responsable. En fait, une façon de les amener à identifier leurs propres préoccupations, à définir les conditions de prendre en charge leurs propres problèmes. Et puis même, on les a formés sur la responsabilisation sociale, comment ils doivent accompagner aussi les autorités, comment ils doivent coproduire la sécurité avec les autorités. Donc c'est extrêmement important. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut un peu prendre la question. Et pour finir, il faut que l'État soit réellement sérieux. Je reprends ça aussi, c'est important. Le SG a dit il y a un problème d'adéquation entre notre formation et le marché de l'emploi. Sincèrement, il faut qu'on crée un terrain de chute, quoi. Et quand on finit, on sait que véritablement, oui, même si l'État ne peut pas prendre tout le monde, mais vous pouvez être opérationnel quand même après votre formation. Malheureusement, après les universités publiques là, vous allez faire 9 ans pour avoir un master. Après 9 ans de banc, vous ne pouvez pas être opérationnel directement. Et vous serez moins efficace que celui qui a fait brevet plus 3 niveau moyen, autrement dit, dans une école missionnaire de la place qu'on qualifie souvent des écoles missionnaires. Donc je pense qu'il y a un problème. Il faut que l'État mette les moyens, qu'on renforce la capacité de nos jeunes, qu'ils soient beaucoup plus utiles et quand ils sortent des universités ou de l'école, qu'ils soient compétitif sur le marché de l'emploi.
Merci. Et je finirai par vous. Il l'a dit, la loi de la programmation a cessé d'exister au Niger. Que faut-il faire en termes de cri de cœur pour ces jeunes?
Oui, pour ces jeunes, c'est comme ils l'ont dit déjà. Mais moi, je pense bien que les jeunes, c'est-à-dire, doivent avoir d'abord confiance en eux-mêmes. Parce que il faut avoir confiance en soi et il faut également avoir la passion de ce qu'on fait. Et il faut se débrouiller, c'est-à-dire il faut vraiment se battre. Et il faut vraiment mouiller le maillot, c'est-à-dire comme on le dit, et travailler et ne pas, c'est-à-dire espérer gagner et facilement les choses. Et l'autre aspect, c'est par rapport aussi aux politiques publiques au niveau de l'État. Donc effectivement, c'est-à-dire on constate vraiment un échec, c'est-à-dire des politiques publiques. Parce que les secteurs, c'est-à-dire notre population est en majorité rurale, et les secteurs pourvoyeurs, c'est-à-dire d'emploi, l'agriculture et l'élevage sont très peu financés.
Et nous allons finir. L'intégration des jeunes nigériens dans le milieu du travail doit être considérée comme une composante essentielle d'une stratégie efficace et globale de gestion des migrations qui favorise l'inclusion sociale, contribuant ainsi à la création de sociétés diverses, inclusives et cohésives. Et cohésive. Nous sommes donc au terme de ce forum de ce soir qui a traité sur la création de l'emploi pour les jeunes, pour le développement socio-économique et la cohésion sociale dans la zone des Trois Frontières. Merci donc à vous, chers invités, pour nous avoir honorés de votre présence. Merci également à vous, chers fidèles auditeurs et téléspectateurs. À la présentation, je suis Moussa Hassan. Merci, au revoir.